J'aimerais prier avec vous. Père Céleste, merci pour sa parole. Merci pour cette parole que tu nous as laissée et qui nous guide, qui nous encourage, qui nous relève, qui parfois aussi pointe du doigt des choses dans nos vies que nous pouvons t'apporter. Et merci parce que tu nous laisses jamais seuls et que tu veux nous encourager par ta parole encore ce matin. Merci de bénir ce que tu as à nous dire à chacun d'entre nous et de préparer nos cœurs et aussi notre courage pour aussi peut-être relever les manches avec ton aide. Amen. Alors, dans la continuité de notre thème de cette année qui a été introduit par Colin dimanche dernier, que je rappelle, la Bible, le cœur de Dieu à cœur ouvert. Nous allons prendre ensemble ce matin le psaume 1. Alors, il est un peu difficile à trouver, c'est au milieu de la Bible et c'est le premier psaume. Et nous allons nous pencher un petit peu plus particulièrement voilà. Donc nous allons nous pencher, moi déjà sur la télécommande, voilà, donc avec le thème de l'année, et nous allons nous pencher sur la question suivante: en quoi la parole peut nous aider dans notre manière de vivre? Alors juste avant de lire ce psaume, quelques rappels peut-être. Le psaume 1, c'est le premier livre des psaumes. Ça, c'est bon, ça va à tout le monde, ça? Psaume signifie louange. Les psaumes signifient les louanges. Et ils étaient destinés à être chantés lors du culte hébraïque. Le psaume 1 est celui qui ouvre, le recueil du culte hébraïque. Thomas d'Aquin disait de ce psaume: ce psaume se différencie du reste de l'œuvre, car il n'a pas de titre, puisque le titre qu'on voit dans la Bible a été, semble-t-il, rajouté. Ce psaume se différencie du reste de l'œuvre car il n'a pas de titre, et il est, pour ainsi dire, le titre de toute l'œuvre des psaumes. C'est ce que disait Thomas d'Aquin. Nous pouvons donc, nous aujourd'hui, prêter une attention particulière au sujet de ce psaume. Le psaume 1 parle de deux manières de mener sa vie. L'une, celle des méchants, et l'autre, celle de l'homme juste basé sur la parole de Dieu. Comme pour nous rappeler que le culte véritable n'est pas dissociable de la vie qu'on mène et de nos choix quotidiens, et qu'il n'est pas possible d'être simplement un chrétien du dimanche. Le titre du message de ce matin pourrait être « La parole de Dieu et ma manière de vivre ». Lisons le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Je vous propose donc ce matin, très brièvement, de nous arrêter sur ces deux manières de vivre, de constater les caractéristiques de chacune d'elles qu'on peut trouver dans ce psaume, et d'en tirer quelques enseignements pour nos vies. Alors, la vie des méchants. La vie des méchants. Qui sont-ils? On voit dans ce psaume qu'il y a trois termes qui sont employés pour les qualifier. Le premier, on parle des méchants. Les méchants, c'est ceux qui ne sont pas gentils. Les méchants sont ceux qui sont coupables de fautes. Les pécheurs. Le pécheur est celui qui pêche volontairement et qui se détourne de Dieu. Le moqueur. Le moqueur est celui qui se moque de Dieu volontairement. C'est un arrogant vis-à-vis de Dieu. Ces termes, ces trois termes, quelque part, désignent la même catégorie de personnes, tout en soulignant quand même une opposition croissante vis-à-vis de Dieu. On voit aussi que, d'une partie, il y a les méchants, et d'un autre partie, il y a l'homme qui se laisse entraîner par les méchants. On voit qu'il y a une implication aussi qui est croissante. Au départ, il est parlé de marcher selon le conseil des méchants. On pourrait dire écouter les conseils des méchants. Ensuite, il est parlé de s'arrêter. Ou bien, Sommer va dire se tenir sur le chemin. Être en compagnie des pécheurs. C'est-à-dire, quelque part, c'est nos fréquentations. Ensuite, la dernière action, qui est la dernière sur la liste, est celle de s'asseoir. Dans l'Ancien Testament, le fait de s'asseoir et de manger avec des personnes est un signe fort d'alliance. Cela veut dire quelque part que c'est presque devenir l'un d'eux. Donc on voit que l'implication dans le mal est progressive. On passe de debout marchant et on devient assis, immobile, au bord du chemin. Et on peut y voir une application directe pour nos vies, et en particulier détecter une des stratégies du diable. C'est-à-dire que cette marche de détournement de l'homme, qu'il soit chrétien ou non d'ailleurs, est progressive et insidieuse. Son but est de nous faire croire que le départ d'un péché n'est jamais grave. Son but est de nous faire croire que le départ d'un péché n'est jamais vraiment grave. Mais le résultat du péché, on le voit dans ce psaume, au bout du bout, est en tout cas toujours le même. C'est l'arrêt de la marche chrétienne. Alors on voit dans ce psaume qu'il y a aussi des pistes de solution. Des choses préventives peuvent néanmoins être mises en place afin d'éveiller notre vigilance. Sur le modèle du psaume 1, on pourrait scanner nos vies personnelles. Première question qu'on pourrait se poser, de qui prenons-nous conseil? Une maxime célèbre, « Dis-moi qui tu écoutes, je te dirai qui tu es. »« Dis-moi qui tu écoutes, je te dirai qui tu es. » Est-ce qu'on écoute la télé? Est-ce qu'on écoute l'école? Est-ce qu'on écoute Google Actualité? Est-ce qu'on écoute le Dieu consommation? Ou bien est-ce qu'on écoute le Dieu qui maîtrise tous les événements, qui domine la terre et les nations, comme on l'a rappelé ce matin? Deuxième question qu'on pourrait se poser, avec qui nous arrêtons-nous? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Avec qui mangeons-nous? Qui sont les personnes que j'estime le plus? Une remarque. Le but n'est pas de nous enfermer dans un donjon ou dans une caverne ou au sommet d'une montagne et de ne plus parler au monde extérieur par crainte de je ne sais pas quoi. Mais le but est de nous rendre vigilants sur ce qui nous influence. Il est intéressant de constater, d'après ce psaume, que le point de départ se joue... Où est-ce qu'il se joue, le point de départ? Il se joue dans les pensées. Ce constat rejoint une autre citation célèbre que j'ai un peu modifiée. pour les besoins de la technique dans du message. Sème une pensée et tu moissonneras une action. Sème une action et tu récolteras une habitude. Sème une habitude et tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras une vie. L'enjeu des pensées est stratégique, car quelque part, ce sont mes pensées qui vont décider de ma vie. Ce sont mes pensées qui vont décider de ma vie. Alors de quoi est-ce que j'alimente mes pensées? C'est une question à se poser régulièrement en tant que chrétien devant le Seigneur. Et ce qui est encourageant, c'est quand, en tant que chrétien, nous avons la faculté, grâce à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu en nous, de détecter ce qui n'est pas conforme directement à la source. Et grâce à Jésus-Christ, de le transformer en un processus positif. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ainsi, si je me nourris de la parole de Dieu, ma vie sera conforme à ce que Dieu veut pour moi. Alors, pour reprendre un petit peu les caractéristiques des méchants, on voit aussi leur finalité. Alors, qu'est-ce que la finalité, à quoi ressemble la vie des méchants? Et la vie des méchants est comparée à de la paille. Alors, j'étais en Ardèche cet été, et puis, vous savez que j'ai des racines paysannes, mais juste le bout des racines, donc j'ai bien oublié les choses. Donc, j'ai demandé un petit peu à mon oncle, quelle était la différence entre la paille et le foin? Vous savez la différence? Michel, tu sais, j'ai l'impression. Hop là, je suis allé un peu loin. Alors, la paille, c'est la base du céréal. Quelque part, c'est la mauvaise partie du céréal. Alors, la paille produit rapidement du fruit, c'est sûr, mais ce fruit ne dure pas. Il dure quelques mois, le temps d'une moisson. La paille, à la différence du foin, a très peu de valeur nutritive. La paille est quelque part un rebut qui est souvent brûlé, ou au mieux, elle sert de litière pour les animaux. Et on voit que la paille, et on le sait, est dissipée par le vent. La paille n'a pas de réelle racine. Et c'est d'autant plus accentué dans le psaume que la paille est comparée à un arbre. Et les arbres, alors je ne sais pas si vous savez combien de temps peut vivre un arbre, mais j'en ai trouvé quelques-uns qui sont intéressants. Ah. Alors, au Pays de Galles, pas très loin de la France, de France, il y a un if qui s'appelle l'if de Langernive, pardon, David et tous les Gallois qui m'écoutent, qui aurait 4000 ans. 4000 ans. Et regardez comme il est en forme. L'arbre est persistant, il se renouvelle et son feuillage ne flétrit point. Et même pendant 4000 ans, je pense qu'au Pays de Galles, il y a dû y avoir pas beaucoup, hein, mais certains jours, il faisait pas très beau. Celui qui mène sa vie loin de Dieu et de sa parole est comparé à de la paille pour souligner sa brièveté et que ses actions et sa vie n'ont pas de valeur car elles sont ternies par le péché. Alors on voit les conséquences de cette vie dans le psaume. Et le psalmiste conclut que leur voie, leur manière de vivre les mène à la ruine. On ne parle pas de ruine matérielle, là. On parle de la mort. La voie des méchants les mène à la mort. Et il dit aussi que les méchants ne résistent pas au jour du jugement et à l'assemblée des justes. Vous connaissez la pratique du peuple d'Israël à l'époque, qui était que pour retirer le pécheur du peuple, il était nécessaire de le chasser pour qu'il se retrouve seul dans le désert et qu'il ne soit plus au contact du peuple d'Israël. Heureusement pour nous, Dieu n'agit plus comme cela avec nous. Mais cela doit nous rappeler et nous montrer la gravité du péché et la manière dont je devrais le traiter dans ma vie. C'est-à-dire l'extraire dès que je le détecte, afin qu'il ne prenne pas racine. Pour conclure cette première partie, la vie chrétienne est comparée à une marche qui peut s'arrêter à tout moment si nous ne sommes pas vigilants. Mais si nous nous détournons de ce qui nous fait chuter, en puisant nos forces dans la grâce de Dieu et dans ses promesses de reconstruction qui sont dans sa parole, Dieu nous permet de la reprendre à tout moment également. Alors la vie des justes. Il est dit que le juste est heureux. Quelle promesse. Je vais vous laisser une citation que je vous ai déjà laissée il y a quelque temps, qui est de Antoine de Saint-Exupéry. « Si tu veux comprendre le mot bonheur, il faut l'entendre comme récompense et non comme but. » Si tu veux comprendre le mot bonheur, il faut l'entendre comme récompense et non comme but. Le bonheur ou le fait d'être heureux n'est pas un but à atteindre, mais plutôt la conséquence de la vie des justes, c'est-à-dire de ceux qui ont une vie dirigée par la parole de Dieu. Il est parlé que les justes trouvent leur plaisir. Il y a quelque part une recherche pour trouver le plaisir, un effort à fournir. Et on peut le comparer un petit peu comme celui qui cherche son plaisir, pour le trouver bien sûr, c'est un peu comme celui qui cherche un trésor. Et il y a des points communs entre ceux qui recherchent dans la parole de Dieu leur plaisir et les chercheurs de trésors. Est-ce que vous connaissez Gilles Cavaillé ? Il n'est pas de Cavaillon. Je vous propose quelques lignes de sa vie. À l'âge de 10 ans, un événement a été à l'origine de ce que je suis aujourd'hui. Dans les années 70, mes parents achètent un champ de blé pour construire la maison familiale actuelle. Je revois encore, près du vieux chêne qui borde le chemin communal, un pan de mur envahi de ronces sur une petite butte de terre. Mon père et ma mère feront construire la maison au milieu du champ et la surélèveront légèrement. Ils feront déplacer et étaler en notre absence, par un bulldozer, la terre provenant de la butte à côté du vieux chêne de la route, devant la maison, pour en faire une pelouse en pente douce. Où c'est qu'il veut en venir, Jean-Lionel ? Mes parents, étant enseignants à Djibouti, nous ne rentrions en France que durant les 3 mois d'été, et c'est lors de ce premier été, après les travaux, que je trouvais donc ma première pièce en or, à l'œil nu, après avoir arrosé le sol pour faire pousser le gazon. Je m'en souviens encore, et curieusement, cette première monnaie fut la plus ancienne jamais trouvée, un Napoléon de 1812. Enfant, et pendant de longues années, je défendais contre la fronde unie de mes frères, parents et grands-parents, la thèse d'un trésor enfoui près de la vieille maison et du chêne, acceptant même d'être l'objet de franches rigolades et d'être taxé de rêveur au cours de repas familiaux. Jusqu'à ce qu'une dizaine d'années plus tard, je trouvais une seconde pièce dans le remblai d'une tranchée que mon frangin venait de creuser. Ce fut le départ de mon initiation à la détection de métaux. Je louais un appareil, en trouvais d'autres, j'achetais un détecteur et en trouvais encore. Le virus étant pris, il ne me quittait plus. À cette époque, je me partageais entre mon métier et mon autre passion, la détection. C'est ainsi que j'ai ramassé des boulets de couleuvrine aux Antilles, prospecté quelques plages célèbres dans les Caraïbes en espérant tomber sur un trésor de boucanier ou détecter quelques bouts de bronze sur un îlot des Cyclades en Méditerranée. Mon détecteur voyageait avec moi sur chaque bateau. J'ai eu envie de ne faire que cela. Je suis rentré m'installer en France avec la ferme intention de trouver des trésors. J'avais un bon pécule, une voiture et un camping-gaz pour mon café du matin, et je partais 5 à 6 jours en camping sauvage pour explorer toutes les grottes, souterrains et autres endroits qui m'attiraient pour leur côté nature sauvage et aventure. Je vivais prospection, mangeais en prospectant et rêvais la nuit de la même chose. Cela n'a pas traîné. Quelques semaines après, je découvrais mon premier trésor médiéval et su désormais que j'en ferais un métier. Pour résumer, on peut dresser quelque part une liste d'un bon chercheur de trésor. Le bon chercheur de trésor, il a la conviction qu'un trésor existe et il a la volonté de le découvrir. Il y consacre beaucoup de temps et d'argent. Il supporte les moqueries. Il investit dans des équipements, on pourrait dire même des formations ou quoi que ce soit pour savoir comment fonctionne un détecteur de métaux. Ses résultats sont maigres au départ, mais grandissent avec le temps et la pratique. Et tous ces aspects, vous serez d'accord avec moi, sont applicables aux chrétiens qui souhaitent passer du temps dans la parole de Dieu pour trouver les trésors de Dieu pour lui. Comment avoir envie de passer du temps dans la parole de Dieu? Comme pour les chercheurs de trésors, il me semble que la clé est d'avoir la conviction que le Seigneur a des trésors pour moi dans sa parole. Il me semble que la clé est d'avoir la conviction que le Seigneur a des trésors pour moi dans sa parole. Ensuite, les ressources, la discipline, l'orientation de ma vie suivent. Es-tu convaincu que Dieu a quelque chose à te dire au travers de sa parole? Que le Seigneur puisse nous renouveler cette année chacun dans notre désir de découvrir les trésors de la parole de notre Dieu. Alors le juste, il est dit qu'il médite la loi de l'Éternel. Qu'est-ce que ça doit être rébarbatif, la loi? Tu ne feras pas, tu feras, Dieu. Quand on parle de la loi de l'Éternel, on parle de la parole de Dieu, c'est-à-dire on parle de ce que Dieu dit. Ses avertissements, ses conseils, ses promesses pour ma vie. Comme nous a rappelé Colin la semaine dernière, l'importance dans la parole de Dieu n'est pas la parole, mais Dieu. C'est-à-dire non le livre en tant que tel, mais plutôt l'auteur du livre. Pour aller un peu plus loin, imaginons un chrétien qui ne lit pas la parole, ou qui ne l'écoute pas, ou qui ne se sert d'aucun média pour être en contact avec la parole de Dieu. Si je grossis un peu le trait, ok? Oui, bien sûr, je connais Dieu, mais nous n'avons jamais discuté réellement ensemble. Bon, je sais qu'il a écrit un bouquin super intéressant, hein, mais je ne l'ai jamais lu. Sa connaissance de Dieu sera forcément limitée, imparfaite, voire faussée. Et sera construite sur des choses entendues ou des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est pourquoi le psaume 1 nous invite à méditer jour et nuit ce que Dieu veut nous dire, afin d'apprendre, pas la Bible par cœur, afin d'apprendre à connaître vraiment Dieu, tout en étant enraciné dans la parole comme l'arbre planté de ce psaume. Alors le juste est comparé à un arbre planté. Comme on l'a déjà vu un peu avant, l'arbre, bien sûr, c'est beau, c'est majestueux, c'est persistant, il se renouvelle, il ne flétrit point pendant la sécheresse. Mais tout cela n'arrive pas par hasard. Je suis un piètre, alors vraiment un piètre jardinier d'intérieur. Mais je me suis aperçu d'une chose. C'est que même si je fais tout mal autour, c'est-à-dire que je stresse mes bonsaïs, semble-t-il, selon Aurore, mon bonsaï. Mais je me suis aperçu d'une chose. C'est que l'emplacement est fondamentale. L'orientation du soleil, la luminosité, les courants d'air, le type de terre, le type de pot, la taille du pot, tout est à calculer, prévoir, planifier, organiser, afin que la plante ou l'arbre, si on est en extérieur, puisse se développer convenablement. Dieu a prévu sa parole pour nous nourrir au quotidien et pour nous donner des forces. Vous connaissez le proverbe chinois, « Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. » Et c'est ce que Dieu souhaite pour moi. C'est que je puisse puiser à souhait et autant de fois que nécessaire des forces et des encouragements dans sa parole et que je devienne grand et persistant. Alors vous savez que depuis la semaine dernière, non, depuis un dernier message de Colin, que je suis nouvellement papa. Et mon fils Elliot a donc 1 an depuis quelques semaines et il est en train d'apprendre à marcher. Oh, merveille. Alors, il a commencé, il y a quelque temps, à se mettre debout, tout seul. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas anticipé la redescente. Et au bout d'un certain temps, il se lâchait de la table basse et tombait n'importe comment au sol. Tête première, bref. En tant que père, j'ai 2 solutions. Soit je reste tout le temps derrière lui pour le rattraper à chaque fois qu'il tombe jusqu'à ses 18 ans. Soit je le laisse tomber une première fois en veillant à la manière dont il tombe et à l'endroit où il tombe afin qu'il découvre par lui-même qu'il peut se baisser seul pour se remettre au niveau du sol. Ainsi, Dieu préfère nous accompagner, parfois également dans nos chutes, et nous faire découvrir par sa parole comment grandir et devenir adulte pour porter du fruit. Alors, il y a une autre expression dans ce psaume, pour qualifier les justes, il est dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Et j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur cette expression. Une des idées véhiculées par l'évangile de la prospérité qui fait des ravages de nos jours est que si je ne suis pas riche et en bonne santé, c'est que je ne suis pas béni de Dieu. Je vais vous raconter une histoire, une autre histoire. En 1939, un jeune homme d'un village français se voit offrir un cheval par un oncle éloigné. Au regard de la valeur de cette monture à cette époque, ce cheval est une vraie bénédiction. Quelques semaines plus tard, il tombe de cheval. Ses 2 jambes sont cassées au point où il ne remarchera jamais normalement. Au regard de cet handicap et de certaines facilités désormais inaccessibles, ce cheval s'avère être plutôt une malédiction. La guerre est déclarée. Tous les jeunes gens de son âge sont mobilisés et la plus grande partie, tombée au combat, ne reviendra pas à la maison. Le cheval redevient un objet de bénédiction. Il est important de se rappeler que l'objectif de Dieu, pour toi, pour moi, n'est pas uniquement la vie terrestre. On voit à plusieurs endroits dans la parole de Dieu que Dieu promet la réussite à certains hommes. On voit David, on voit Josué, et on peut lire en Josué au chapitre 1, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Ainsi, la promesse de réussite est liée à l'obéissance à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Cette promesse concerne en fait la vie chrétienne, c'est-à-dire ce que Dieu nous invite à vivre, ou comme pour Josué, la mission qu'il nous confie. Cela n'est pas forcément lié à une réussite terrestre et matérielle. Saint Augustin a dit « Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme. » Prenons du recul sur les voies par lesquelles Dieu nous fait passer. Recherchons la réussite de notre vie non pas seulement avec des lunettes terrestres, mais aussi et surtout avec des lunettes célestes. Et soyons persuadés, comme le rappelle ce psaume, que quoi qu'il arrive, Dieu connaît notre chemin. Autrement dit, le verbe connaître veut dire que Dieu s'implique avec amour dans la vie de ceux qui vivent pour le ciel. Les justes, qui sont ces justes? Qui peut dire dans la salle « je suis juste » Dans ce psaume, on voit que la justification, c'est-à-dire le fait d'être juste, et la manière de vivre, sont clairement associés. Mais il y a un ordre qui ne peut pas être interchangé. Le juste est celui qui est déclaré juste, non pas par sa manière de vivre, mais par la foi en l'œuvre de rachat de Jésus-Christ pour lui. Le juste est celui qui est déclaré juste, non pas par sa manière de vivre, mais par la foi en l'œuvre de rachat de Jésus-Christ pour lui. Et sa manière de vivre devient par la suite le premier fruit auquel on reconnaît celui qui est déclaré juste. Et l'ordre ne peut absolument pas être changé. En conclusion, pour répondre à notre question du début, en quoi la parole peut nous aider dans notre manière de vivre? Nous avons vu que la parole de Dieu te permet, me permet de détecter le péché dans ma vie. On a vu que la parole de Dieu nourrit mes pensées positivement. On a vu que la parole de Dieu contient les trésors de Dieu pour moi. On a vu que la parole de Dieu peut me guider et me permettre de réussir ma vie selon Dieu. On a vu que la parole de Dieu me permet d'être persistant et de me renouveler même pendant la sécheresse. On a vu que la parole de Dieu me permet de vivre heureux, car dans les mains de celui qui veille sur moi et qui veut me faire grandir. Et dernièrement, la parole de Dieu est capable de transformer la vie d'un méchant en un homme juste, car elle mène cet homme à Jésus-Christ. Pour conclure, une illustration. Alors, on voit pas très bien, mais on voit que c'est un homme qui est dans trois situations différentes face à la Bible. Et les trois premières, la Bible, il dit, la Bible n'est pas un livre scientifique, il faut la dépoussiérer un petit peu. Très bien. La Bible n'est pas un livre de morale, il faut la dépoussiérer. Très bien. La Bible n'est pas un livre d'histoire, il faut la dépoussiérer. Et vous voyez la suite. Que je puisse considérer la Bible ni comme un livre scientifique, ni comme un livre de morale, ni comme un livre d'histoire, mais comme un livre dont l'auteur a la capacité de transformer et de dépoussiérer ma vie et ma manière de vivre. Je nous souhaite que Dieu puisse nous renouveler dans notre rapport à la parole de Dieu cette année. Amen.